Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au rendez-vous de l'information. Bienvenue dans votre grand journal des 18h. Au menu, l'essentiel de l'actualité ici chez nous et à travers le monde. Les titres à présent. Nord Kivu, le poisson devient un produit de luxe à Beni et Butembo. Entre flambées de prix et pénurie sur le marché, la fermeture de la frontière des Mpondwe liée à la lutte contre Ebola bloque l'approvisionnement et plonge commerçants et ménages dans l'inquiétude. Intrusion sur un site religieux à Kinshasa. L'église catholique élève la voix et dénonce une violation inacceptable de son espace. Des militants de la Force du Progrès ont occupé le parvis pour des activités politiques déclenchant tensions et interventions des forces de l'ordre. Notre invité Salama Bibileye nous ouvre le page de ces deux livres entre hommage aux mères célibataires et message d'espoir sur l'amour malgré les épreuves. Le prix du poisson s'envole au Nord Kivu. Une situation qui inquiète autant des ménages que des commerçants. Le prix du poisson connaît une hausse significative dans le marché de Beni et Butembo, où cette denrée devient progressivement un produit coûteux pour de nombreux ménages. Cette situation s'explique principalement par la fermeture de la frontière de Mpondwe avec l'Ouganda, décidée dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du virus Ebola. Une décision sanitaire qui n'est pas donc sans conséquence, elle ralentit l'approvisionnement et fragilise les activités de commerçants du secteur halieutique. On fait le point avec Marc Marofimbo.
C'est depuis un mois et demi que le poste frontalier de Mpondwe, principal point d'entrée des marchandises en provenance des pays de l'Afrique de l'Est, est fermé pour cause d'Ebola. Les premiers à subir les effets de cette situation sont les vendeurs et les consommateurs de poissons frais, fumés et salés, souvent importés de la Tanzanie, de l'Ouganda ou encore du Soudan du Sud. Sur les marchés de Beni et de Butembo, les étalages sont peu approvisionnés, les poissons se faisant désormais rares. Cette baisse des ravitaillements entraîne une hausse sensible des prix. À titre illustratif, un poisson tilapia qui s'est négocié entre 5 000 et 7 500 francs congolais se vend actuellement entre 12 000 et 15 000 francs. Une tendance similaire est observée pour les poissons frais et fumés. Cette situation impacte également d'autres secteurs, notamment celui de la vente des chèvres. À Beni, par exemple, une chèvre qui coûtait entre 50 et 60 dollars américains se vend aujourd'hui à presque 80 dollars. Face à ces difficultés, certains commerçants prennent le risque de s'approvisionner à Kasenyi, au bord du lac Albert, dans la province de l'Ituri, ce qui rallonge les délais de livraison et les coûts des transports et en même temps pousse les prix à la hausse sur les marchés de la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et ce n'est pas tout. Direction Kananga au Kasaï central, où la pression se fait aussi sentir. Le poisson salé, fumé, le fretin voient leurs prix s'envoler dans le marché. Résultat, des tarifs qui doublent, parfois même qui triplent, au grand désarroi des consommateurs. Une flambée qui frappe de plein fouet les ménages les plus modestes. Les vendeurs, eux, pointent du doigt la rareté des produits. Reportage André Katindi, Ngala Mouloumé.
À l'espace Ndakoyabiso, derrière le marché central de Kananga, l'un des principaux lieux de négoces où se vendent en gros ces denrées alimentaires, les dépôts sont presque vides. Conséquence, les prix flambent. Une mesurette de fretin communément appelée meka, vendue autrefois à 15 000 francs congolais, coûte aujourd'hui entre 30 et 40 000 francs. Pour les commerçants, cette hausse s'explique par les difficultés d'approvisionnement. Ils pointent notamment le problème des transports par voie ferrée. Joseph Moulumba explique.
Arrivé au niveau de Lubumbashi, là où notre grand transporteur qui est la CSC, beaucoup de retard. Certains de nos membres ont préféré amener les petites quantités par l'avion.
Cette situation affecte directement les consommateurs. Au quartier du Kongaï, dans la commune de Lukonga, Rachel Ntumba, mère de cet enfant, peine à acheter du poisson salé ou de fretin pour sa famille. Nous sommes fatigués de manger le feuillage. Vous pouvez partir avec 5000 francs au marché, mais le fretin et le poisson salé coûtent cher. Il y a quelques jours, l'association des vendeurs de poissons du Kasaï central dénonçait déjà les retards dans l'acheminement de ces marchandises en provenance de l'espace Grand Katanga. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
À qui sont gagnés dans la province de la Tchopo, le soulagement tant attendu tarde à se concrétiser malgré la suspension depuis une semaine des taxes sur le produit de grande consommation décidée par le ministre provincial de finances. Les prix restent inchangés sur le marché. Le panier de la ménagère demeure sous pression alors que la mesure visait justement à alléger le coût de la vie. Certains opérateurs économiques pointent notamment la dégradation des infrastructures routières comme principal obstacle. Constat et réaction dans ce reportage de Jacques Moukonkolé.
Au marché cabine, les étals sont pleins, mais les visages des acheteurs restent crispés. L'annonce gouvernementale n'a pas fait baisser le prix du riz, de l'huile ou de la farine d'un seul franc. Sur place, la déception est générale, comme en témoigne cette dame.
Cette décision du gouvernement n'a pas influencé positivement les prix des denrées alimentaires au marché. Ça reste les mêmes.
Même décor, même amertume dans un autre grand marché de la ville. Ici, l'avant et l'après-décision se confondent parfaitement. Témoignage dit Notre-Dame.
Décembre aussi, les terrains et même faire le constant qu'il puisse faire baisser les prix.
Le gouvernement provincial espérait pourtant stopper l'envolée quotidienne des prix en gelant ses taxes. Une mesure salutaire sur le papier, mais jugée éphémère et insuffisante par les opérateurs économiques. Pour la Fédération des entreprises du Congo, le vrai problème est ailleurs. Il faut s'attaquer aux infrastructures. Robert Osunja, vice-président de la FEC.
En amont, on aurait dû commencer d'abord par la réhabilitation des routes de desserte agricole, de préparer même dans des foyers de collectivités ou des groupements des silos.
Rappelons que parmi les facteurs à l'origine de la hausse des prix sur le marché local, figure la rareté de certains produits provoquée par la non-arrivée des bateaux de Kinshasa. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'église catholique hausse le ton et dénonce une intrusion inacceptable. Dans un communiqué publié ce samedi 20 juin, l'archidiocèse dénonce l'intrusion de militants se réclamant de la force du progrès proche de l'UDPS. Sans autorisation, ces derniers ont occupé le parvis avec l'intention d'y mener des activités politiques et d'y installer les symboles du parti au pouvoir. Selon la chancellerie, la situation a rapidement dégénéré avec des injures et des menaces visant des responsables ecclésiastiques. La police nationale est intervenue pour rétablir le calme sans incident majeur. Mais pour l'église, une ligne rouge a clairement été franchie. Le récit avec Jean Gandou.
L'archidiocèse de Kinshasa dénonce une provocation qu'elle qualifie d'inacceptable. Dans son communiqué publié samedi 20 juin, la chancellerie revient sur une scène inhabituelle. Des militants se réclamant de la force du progrès investissent le parvis de l'archevêché sans autorisation. Sur place, ils y mènent des activités avant d'afficher des symboles du parti présidentiel. À la demande de quitter les lieux, certains répondent par des injures et des menaces visant directement les responsables de l'église, indique le communiqué. Face à la montée de la attention, la police nationale congolaise intervient. Une réaction rapide qui a permis un retour au calme sans débordement majeur. Un acte salué par l'archidiocèse. Mais sur le fond, l'église ne lâche pas. Elle dénonce une atteinte grave aux droits des propriétés, au respect des institutions religieuses et au caractère sacré des lieux. Elle appelle les autorités à garantir la sécurité et invite les fidèles à rester calmes, vigilants et responsables. Un incident qui survient dans un climat politique déjà sensible. Ce samedi, la CENCO a réaffirmé son opposition à toute révision de la Constitution, estimant les débats ni prioritaires, encore moins opportuns.
Mettre l'humain au cœur de la détention, un défi que veut relever la MONUSCO. C'est samedi, à la prison militaire de Ndolo, l'unité correction de la mission onusienne a organisé une séance de sensibilisation à l'intention du personnel administratif. Au centre des échanges, le respect de droits humains et la prévention de violences sexuelles est basée sur le genre. Une démarche visant à renforcer les valeurs professionnelles et améliorer la protection des personnes détenues. La MONUSCO ambitionne aussi de consolider les mécanismes de prévention et de prise en charge des cas en milieu carcéral. Reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Cette formation a porté sur plusieurs thématiques, notamment les notions fondamentales des droits humains, les normes nationales et internationales relatives aux droits des détenus, les concepts clés liés au genre, ainsi que la définition et la typologie des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Elle a également abordé les facteurs des risques et les conséquences des VBG en milieu carcéral, ainsi que la responsabilité du personnel pénitentiaire dans la protection des détenus. À l'issue de cette formation, les personnels pénitentiaires affirment disposer désormais d'une meilleure compréhension des droits humains en milieu carcéral. Le commandant adjoint en charge de l'administration de la prison de Ndolo s'est réjoui d'avoir acquis une meilleure maîtrise des concepts liés à la protection des droits fondamentaux des détenus. Capitaine Stéphane Langba.
Nous avons retenu beaucoup de choses. Nous disons merci à la MONUSCO pour tout ce qu'elle fait à notre égard et que cela ne soit pas la toute dernière fois qu'on puisse avoir des formations comme
ça. De son côté, la chef du bureau en charge du genre dans cette maison carcérale indique que le respect des droits humains garantit le bon fonctionnement de la vie en société. Elle assure également que les femmes occupent également les postes de responsabilité au sein de la prison d'Ndolo. Toutefois, les défis liés au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté demeurent préoccupants dans plusieurs maisons carcérales en RDC.
Des signes encourageants dans la lutte contre Ebola à Mongwalu en Ituri. Considérée comme l'épicentre de l'épidémie, cette zone enregistre aujourd'hui une évolution positive des comportements. La population autrefois méfiante adhère progressivement au message de sensibilisation et se rend davantage dans les structures de santé dès le premier symptôme. Une avancée importante quand on sait qu'il y a encore 2 à 3 semaines, les équipes sanitaires faisaient état d'environ 15 décès communautaires par jour. Explication avec Jean-Claude Lokidile.
Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mongwalu, le docteur Richard Lokoudou, ce chiffre est aujourd'hui tombé à environ 4 décès quotidiens, signe que les malades consultent plus rapidement. Cette évolution se reflète également dans les admissions, alors qu'auparavant, le centre de traitement recevait 3 à 4 cas confirmés par jour. Il accueille désormais près de 10 cas quotidiennement. En moyenne, 20 cas suspects sont admis chaque jour et près de 60% d'entre eux sont testés positifs à Ebola. Une trentaine de patients confirmés sont actuellement pris en charge. Le docteur Richard Lokoudou attribue cette amélioration aux campagnes intensives de sensibilisation menées sur le terrain, ainsi qu'aux mesures annoncées récemment par le ministre de la Santé, Roger Samuel Nkamba, notamment la gratuité des soins et la disponibilité des médicaments.
Nous appelons la population à faire confiance au personnel médical qui prenne en charge les cas, parce que la prise en charge elle est nettement améliorée. Il y a lieu vraiment à appeler la population à ne pas rester à la maison. Prenez tout droit à l'hôpital, moins encore se faire des automédications.
Pour les équipes médicales, cette évolution témoigne des changements encourageants, réduit les décès à domicile et contribue à freiner la propagation de l'épidémie. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Renforcer la sensibilisation pour freiner Ebola, objectif affiché à Butembo, au Nord Kivu. Ce samedi, près d'une centaine de leaders issus de différentes couches sociales ont pris part à une séance de sensibilisation organisée par les autorités provinciales et la division de la santé. L'activité a également bénéficié du soutien de l'évêque du diocèse de Butembo, Beni. Monseigneur Melchisedek Sikuli Paluku a insisté sur la réalité de la maladie dans la communauté et sur la nécessité d'une prise de conscience collective. Un appel clair à la responsabilité individuelle et collective pour limiter la propagation. Monseigneur Melchisedek Sikuli s'est livré au micro de Marc Marofimbo.
Cet sentiment de joie parce que vient de me annoncer la mission pour laquelle ils sont venus, c'est dans le cadre de la sensibilisation et la prévention des MV, maladie à virus Ebola. Et c'est une bonne chose parce que chaque jour, nous recevons quand même des nouvelles qu'il y a de nouveaux cas. On n'en parle pas beaucoup parce que les gens semblent allergiques. Mais nous voulons redire ici que c'est réel. La maladie est bel et bien dans nos murs et dans notre cité. Donc il faudrait qu'on fasse plus attention et qu'on prenne toute la sensibilisation au sérieux. Qu'on se protège pour pouvoir protéger les autres.
À ces jours, Ebola a déjà fait 46 morts dans le 10 zones de santé touchées au Nord Kivu selon les chiffres officiels. À Rutshuru, au Nord Kivu, la lutte contre la malnutrition s'organise sur le terrain. À Nyamilima, la Caritas Goma et le Programme Alimentaire Mondial prennent en charge les cas les plus urgents. Enfants, femmes enceintes et allaitantes sont au cœur de cette intervention. Sensibilisation, dépistage et distribution d'équipes nutritionnelles, un dispositif complet pour venir en aide aux familles vulnérables. Car ici, la malnutrition reste une réalité alarmante avec de nombreux enfants qui naissent en dessous du seuil de 2,5 kilos. Les explications avec Rosalie Zawadi.
C'est à l'occasion des distributions des vivres aux ménages démunis, dont des nombreux retournés, que ces familles sont sensibilisées aux méfaits de la malnutrition. Ces séances sont accompagnées d'un dépistage des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Jérémy Nzima, superviseur des activités des Caritas Goma dans la zone, explique l'objectif de cette approche.
Nous faisons la prévention de cette malnutrition chez les enfants de 6 à 23 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes, mais qui ne sont pas malades. C'est comme ça que de l'autre côté, nous faisons la prévention. Dans les centres de santé, nous faisons le traitement. Pour les femmes, nous donnons du CSB. C'est une farine fortifiée, une farine qu'on appelle super céréale. C'est ce qu'on donne aux femmes enceintes et allaitantes. Et aux enfants, on donne le plan Pi dose. Ce sont des formes de plan Pi, mais qui constituent le vaccin. Un vaccin de la malnutrition aiguë aux enfants.
Sur place, les familles témoignent déjà des changements positifs. Grâce à la vigilance des équipes et à la distribution de ces intrants nutritionnels dans la zone de santé des Binza, de nombreuses vies des femmes et d'enfants sont aujourd'hui préservées. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les États-Unis et l'Iran renouent le dialogue. Des négociations ont officiellement débuté ce dimanche 21 juin en Suisse, 4 jours après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays. Confirmation du Qatar médiateur dans ce processus qui évoque des pourparlers prévus pour une durée initiale de 60 jours renouvelables. Sur place, des discussions tripartites ont été engagées entre Washington, Téhéran et Doha. Au cœur des échanges, la recherche d'un cessez-le-feu global au Liban, mais aussi la question sensible des avoirs iraniens gelés. Et puis au Kenya, des milliers de commerçants sinistrés après un violent incendie à Nairobi. Le feu a ravagé une grande partie du marché des Gikomba dans la nuit de samedi à dimanche 21 juin. Il s'agit du plus grand marché de vêtements de seconde main de la capitale. Selon la Croix-Rouge kenyane, l'incendie s'est déclaré vers 4h du matin. Sur place, des commerçants constatent des pertes considérable. Depuis ce dimanche, les appels se multiplient pour indemniser les victimes et renforcer les mesures de sécurité dans un marché régulièrement touché par des incendies.
L'invité.
Deux livres, deux regards sur l'amour, mais un même message d'espoir. Le poids de deux vies, aimées pour deux, et l'amour au creux de nos blessures. Ce sont les nouveaux ouvrages de Salama Bibiley présentés samedi à Goma. Dans le premier, l'autrice rend hommage aux mères célibataires, ces femmes qui assument seules les charges émotionnelles et maternelles de leur famille. Le second ouvre une fenêtre sur l'espoir en rappelant que l'amour reste possible même après les épreuves les plus douloureuses. Quelles sont les sources d'inspiration derrière ces récits? Réponse avec Salama Bibiley, invitée de Rosalie Zawadi.
Salama Bibiley, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie.
Vous écrivez toujours sur vos expériences. Parlez-nous un peu de ce que vous vivez pour arriver à écrire ça.
En fait, après ma séparation avec mon ex, je me suis retrouvée toute seule en train d'élever les enfants et c'est au travers les défis de chaque jour que je vois dans ma vie quotidienne que j'ai eu l'inspiration de parler du poids de deux vies parce que je porte la charge émotionnelle que le papa était censé porter et la charge émotionnelle qu'une maman est censée porter.
Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour que vous puissiez arriver à écrire? Quel déclic? Un événement où vous êtes dit, peut-être les papas auraient dû faire ça, mais il n'est pas là et c'est moi qui suis là à tout faire. C'était quoi?
En fait, le déclic, c'était un pas dans ce sens-là. J'étais en train de discuter avec une dame et elle m'a lancé un truc. Elle a dit, les femmes qui sont seules avec leurs enfants, elles sont toujours en quête de chercher à attribuer la responsabilité de leurs enfants au mari des gens ou aux gens qu'elle rencontre. C'est vrai qu'elle ne parlait pas de moi. Elle parlait juste comme ça, dans le hasard. Et sur le coup, ça ne m'a rien fait. Mais le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu un peu mal parce que on croit que quand on vit seul avec ses enfants, la priorité c'est de prendre un homme, un autre homme pour venir jouer le rôle de papa dans la vie de ses enfants. Et c'est de là que l'inspiration est venue.
Pour montrer que, au juste, la femme qui vit seule avec les enfants, elle doit aimer pour deux.
Oui, c'était pour montrer que nous sommes conscientes que les papas, peut-être, ils sont démissionnaires et tout, mais nous, à notre niveau, nous savons que nous devons aimer pour deux, et pour le papa et pour la maman. Elles ne sont pas en quête des nouveaux papas pour venir jouer le rôle paternel dans la vie de nos enfants.
En disant le poids de deux vies, aimer pour deux, est-ce que vous arrivez à aimer pour deux ou vous essayez plutôt d'aimer pour deux?
C'est un essai continuel. Tous les jours, j'essaye de le faire, mais ce n'est pas évident. Il y a des jours où on y arrive, où ça paraît plus facile. Il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où on n'y arrive pas. Donc c'est un essai continuel.
Quel message avez-vous adressé aux hommes à travers ces livres?
Ce que je veux que les hommes sachent, c'est que, comme je l'ai dit, l'amour peut finir, c'est normal, c'est un sentiment, ça peut s'évaporer. Mais la responsabilité envers les enfants reste. Donc tu peux te séparer de ta femme, mais tu dois garder en tête que tu restes responsable de tes enfants et tu dois assumer cette responsabilité.
Et aux femmes, quel message vous avez?
Pour les femmes qui sont dans la même situation, je veux leur dire que c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des jugements externes parce que les gens peuvent te juger mais ne savent pas ce que tu vis, mais qu'elles sachent que leur sacrifice n'est pas vain. Elles sont vues par leurs enfants. Les enfants voient ce qu'ils sont en train de faire et leur plus grand bonheur, leur plus grand prix, c'est le bonheur des enfants, c'est l'épanouissement des enfants, parce qu'il vaut mieux pour un enfant d'avoir deux parents séparés, épanouis, qu'il y ait deux parents qui vivent sous les mêmes toits mais qui sont en train de se détruire mutuellement.
Et le deuxième livre, c'est l'amour au creux de nos blessures. Le message essentiel aussi de ces livres,
Le message essentiel, c'est juste dire que même quand tout paraît noir, même quand ça ne va pas, même quand on est blessé, même quand on ne voit pas l'issue, c'est possible de rencontrer quelqu'un de bien. Tout est possible. Il n'y a pas de chemin tracé pour la guérison ou bien pour l'amour. L'amour peut te rencontrer n'importe où, même quand tout est noir autour de toi. Et cet amour-là peut devenir la lumière qui va t'orienter vers la guérison.
Vos deux livres, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En résumé, ce que je peux dire pour l'amour au creux de nos blessures, c'est dire que même quand tout est noir, même quand on est blessé, il est possible de rencontrer un amour et de vivre une relation saine. Pour le poids des deux vies, c'est juste dire aux mamans solo qu'on les voit, que leur sacrifice n'est pas inaperçu et que leur prix, c'est le bonheur des enfants.
Et à quelqu'un qui dirait que ceci arrive parce qu'on s'est séparés, peut-être qu'il fallait rester dans les mariages, même si ça n'allait pas.
La personne qui dit ça, c'est une personne qui n'a pas vécu un mariage difficile ou toxique. Au contraire, quand ça arrive, on dit, c'est bien que je sois partie. Parce que si une personne est capable de délaisser peut-être ses enfants, c'est que cela veut dire que foncièrement, ce n'est pas une bonne personne. Le seul regret qu'une femme divorcée, une femme séparée doit avoir, c'est de ne pas être partie trop tôt, de partir en retard. J'aime le dire tout le temps. En tout cas, c'est ma phrase que j'ai dit à tout le monde. Aucun mariage ne vaut ta vie ou ton bonheur. Quand ça ne va pas, quand c'est une question de vie ou de mort, il faut partir. Pour les enfants, on part.
Madame Salama Bibile, merci.
Merci.
Salama Bibile, autrice de deux ouvrages, Le poids de deux vies aimées pour deux et L'amour au creux de nos blessures, en entretien avec Rosalie Zawadi. Ainsi s'achève votre grand journal du soir. Merci d'avoir été avec nous. À la mise en onde, Jean-Claude Nsiala, coordination éditoriale Jean Ngandou Kabongo. Je suis Gisèle Kaja à la présentation. Retrouvez cette édition à tout moment en podcast sur www.radiocapi.net. Très belle soirée et merci de rester à l'écoute.